Afrique Matin sur RFI. Sébastien Duhamel.
Dans un petit peu plus de 13 minutes, ce sera le début d'RFI Matin avec Andréane Mellard. Mais avant cela, des témoignages rares pour notre reportage du jour. Des morceaux d'histoire, des centaines d'archives sonores de tirailleurs tunisiens ayant combattu pour la France lors de la Première Guerre mondiale. Ils ont été faits prisonniers en Allemagne. Quelle est la situation à Goma, le chef-lieu du Nord Kivu, épicentre de la guerre dans l'est de la RDC? On fera le point avec notre invité Bruno Lemarquis, représentant spécial adjoint et coordonnateur humanitaire des Nations Unies dans le pays. Une sortie actée aujourd'hui. Les trois pays de l'Alliance des États du Sahel quittent la CEDEAO. Quelles conséquences économiques? Ce sera notre dossier Afrique Éco. Mais d'abord, les sports comme tous les jours. Bonjour Florence Valmé.
Bonjour Sébastien.
Et du foot à la une de votre journal, avec ces discussions qui s'animent depuis lundi soir autour du tirage au sort de la prochaine CAN au Maroc.
Oui, avec parmi les groupes à retenir, celui de la République démocratique du Congo, le groupe D, en compagnie du Botswana, du Bénin et du Sénégal, champion d'Afrique 2022, principale menace de ce groupe. Les Léopards ont été gâtés, Olga Massangou.
La plupart des supporters des Léopards parlent d'un groupe abordable, mais tous, y compris les joueurs, ont surtout une fixation sur le Sénégal. Simon Banza est attaquant des Léopards de la RDC.
Le Sénégal, c'est une très belle équipe. Je pense qu'aujourd'hui, le Congo aussi fait peur. On a des super joueurs, on a une super équipe. On a des supporters incroyables qui nous soutiennent. Donc, on est vraiment prêt à jouer ce genre de match.
Les Lions de la Teranga, sur le papier, adversaire le plus redoutable de la RDC, également pour Benoît et Isaac.
C'est pas un groupe facile. Nous avons un grand adversaire qui est le Sénégal. Mais la RDC est en bonne position depuis quelques années. Nous l'avons démontré à la CAN précédente. C'est encore une occasion pour nous de nous réaffirmer.
Dans les groupes où nous nous retrouvons, la seule équipe qui essaie un peu de nous effrayer ou avec laquelle on peut compter que s'il fallait qu'on se prépare pour les matchs, ça serait que le Sénégal.
Attention tout de même au Bénin, prévient Vanessa.
C'est vrai que les Lions de la Teranga qui ont remporté la CAN en 2021 nous effraient un peu avec tout ce qu'ils ont comme star. Mais aussi, vous savez que le Bénin est en train de revenir. Je pense que le Bénin aussi peut nous faire mal.
Chacun y va désormais de son pronostic, mais avec une constante de la part de tous. La RDC, quatrième de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, a des arguments à faire valoir en décembre prochain au Maroc. Olga Massangou Kinshasa, RFI.
Et le match entre la RDC et le Sénégal aura lieu le 27 décembre à Tanger.
Et on en sait un peu plus sur le calendrier et les matchs de la CAN 2025. Et ça, à Florence, à 11 mois maintenant de la phase finale au Maroc, une durée inédite.
Et on pourrait voir là un avantage pour les sélectionneurs qui disposeraient de beaucoup plus de temps pour se préparer. Pas forcément, répond le consultant Radio Foot Philippe Doucet, pas emballé par la date très avancée de ce tirage au sort. Il est au micro d'Éric Mamrut.
D'ici là, il y a des matchs tout à fait essentiels et qui souvent sont des tueurs d'entraîneurs. C'est-à-dire les qualifications pour la Coupe du Monde très très souvent rebattent les cartes. Et donc, est-ce que vous pouvez demander à un entraîneur aujourd'hui de se projeter sur la prochaine CAN dans 11 mois, alors qu'en fait, peut-être que dans 2 mois en mars, il va sauter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme inconvénient? Ben simplement que le soufflet risque de retomber. C'est-à-dire que là, on est tout en appétit. On est en appétit. Ah oui, il y a Sénégal dans le groupe de la RDC, il y a le Cameroun, Côte d'Ivoire, etc. Oui, et ok, et dans 6 mois, est-ce qu'on s'en rappellera? Je pense que non, parce que d'ici là, la mécanique de la Coupe du Monde aura repris le dessus, on parlera d'autres choses, et puis il faudra, à l'automne prochain, se dire « Ah, au fait, la CAN, alors c'est qui, c'est quoi les groupes déjà ?» C'est dommage.
Et ben justement, ces groupes, vous pouvez les retrouver sur notre site rfi.fr.
Oui.
Je vous rappelle les dates de la CAN. Ce sera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Et puis encore un petit mot, ce mercredi, c'est une grande soirée Ligue des Champions sur RFI avec la 8e et dernière journée de la phase de Ligue de la compétition. Une intégrale qui est à suivre dès 20h40 sur notre antenne.
Absolument.
Je vais pas donner l'heure en temps universel, mais si vous voulez.
Oui, oui, bon, du coup, c'est logique, c'est une heure de moins. Donc ce sera 19h40 en temps universel. On sera au rendez-vous. Florence Valmé, merci beaucoup. À tout à l'heure. Et en attendant, 4h46 à Paris. Non, en temps universel, justement. On va y arriver. 4h46 en temps universel. On fait un petit point sur l'actualité internationale. On l'a évoqué dans le journal. Ce calme précaire revenu hier soir dans la ville de Goma, dans l'est de la RDC. Une ville en proie à de violents affrontements ces derniers jours. Des membres du M23 soutenus par le Rwanda se trouvent dans plusieurs quartiers. Les combats ont fait au moins 100 morts ces trois derniers jours, selon plusieurs sources hospitalières, au moins 1000 blessés. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunissait encore en urgence hier. Plusieurs des pays membres condamnent désormais le rôle de Kigali dans ces affrontements meurtriers. Situation à suivre en direct sur notre site RFI.fr. 376 000 Palestiniens de retour dans le nord de la bande de Gaza en 48 heures. L'OCHA, le bureau des affaires humanitaires de l'ONU, dit s'appuyer sur les chiffres de plusieurs organisations qui ont installé des points de comptage dans l'enclave. Les Nations Unies qui rappellent que parmi ces centaines de milliers de personnes se trouvent de très nombreux civils ayant un besoin crucial d'assistance médicale. Les historiens l'ont appelée la Grande Guerre. Près de 10 millions de soldats tués sur les champs de bataille entre 1914 et 1918. Une première guerre mondiale débutée après l'assassinat de l'archiduc austro-hongrois François Ferdinand à Sarajevo et pour laquelle la France fera appel à des tirailleurs africains, des milliers de Tunisiens notamment, dont peu d'archives nous sont malheureusement parvenues jusqu'à aujourd'hui. Mais une équipe de chercheurs et de spécialistes ont travaillé sur le sujet entre la Tunisie et l'Allemagne. Ils ont mis au jour des archives sonores, 445 archives de prisonniers qui viennent d'être remises à la Tunisie. Des morceaux d'histoire, des témoignages précieux pour notre reportage du jour, signé Lilia Blaise.
Un chant qui s'élève pour exprimer la dureté de l'exil et de la guerre, enregistré il y a plus d'un siècle, pendant la guerre de 14-18. Une des premières traces sonores des tirailleurs tunisiens, comme l'explique Mounir Entati, conseiller culturel et ancien directeur du Centre des musiques arabes. Il a découvert par hasard ces archives pour la première fois en 2000, lors d'une visite à Berlin, pour une conférence au musée ethnographique.
Un jour, j'étais un peu fatigué, je suis allé à la bibliothèque, vraiment, ça s'est passé comme ça, et je demande, est-ce qu'il y a des enregistrements qui concernent la Tunisie ? Et c'était le déclenchement. Je découvre qu'il y a vraiment un énorme trésor. Et je me suis consacré pour essayer de voir les documents, pour écouter, etc.
25 ans plus tard, ces archives sont enfin rapatriées à Tunis, après beaucoup de négociations.
Et les Allemands, dans le cadre d'une révision un peu de leur politique vis-à-vis de l'héritage de la période coloniale, il y a eu de plus en plus de voix et de chercheurs en Allemagne qui ont appelé à libérer, en quelque sorte, les archives, libérer ses voix et les re-socialiser, en quelque sorte.
Ce soldat que l'on entend, Sadok Ben Rachid, fermier, était détenu dans un camp de près de 4000 prisonniers au sud de Berlin, lorsque des Allemands ont décidé de mener des expériences ethnographiques en enregistrant ces tirailleurs venus d'Afrique du Nord et subsaharienne dans leur quotidien, sur des gramophones et des cylindres phonographiques.
Il y en a qui étaient des poètes, aussi, et musiciens à la fois, et donc qui ont mis des paroles sur d'autres, d'anciennes mélodies, pour passer des messages. Mais il y a aussi d'autres prisonniers auxquels on a demandé, par exemple, de réciter du Coran ou de chanter une chanson de leur bled. Donc, c'est un peu varié. Pour moi, c'est très émouvant, évidemment, parce que c'est de l'archéologie.
Ce projet, financé par la German Lost Art Foundation, marque ainsi le début d'un travail de mémoire en Tunisie, mais pas seulement, puisque 111 des enregistrements remis à la Tunisie sont ceux de tirailleurs originaires de toute l'Afrique du Nord. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
Un reportage sur les archives des tirailleurs de la Grande Guerre, à retrouver, à partager bien sûr sur Internet. La guerre, une réalité aujourd'hui pour la ville de Goma dans l'est de la RDC. Théâtre hier encore dans la matinée d'échanges de tirs entre les forces congolaises et les éléments du M23 soutenus par le Rwanda. Une ville sous le feu depuis dimanche et qui affiche déjà un lourd bilan. Pour faire le point ce matin sur RFI, on reçoit Bruno Lemarquis, représentant spécial adjoint et coordonnateur humanitaire de l'ONU en RDC. Il déplore pour débuter des services de santé dépassés sur le terrain.
Les hôpitaux sont débordés, ils peinent vraiment, ça fait plusieurs jours qu'ils étaient débordés, mais là c'est encore pire ces dernières heures. Donc ils n'arrivent plus à gérer l'afflux des blessés, malgré tout l'appui des partenaires de MSF, du CSR, etc. Surtout des blessés par balle, des blessés par éclat d'obus, donc beaucoup de blessés graves. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de cadavres dans les rues, beaucoup de personnes tuées. Il y a eu des bombardements également sur certaines infrastructures civiles, notamment une maternité, la maternité de la Charité, des bombardements qui ont touché certains campements les acteurs humanitaires.
Vous interpellez également les acteurs du conflit pour un arrêt immédiat des hostilités et vous rappelez dans vos communiqués que le respect du droit humanitaire est une obligation.
D'une manière générale, ce qu'on demande comme communauté humanitaire, c'est la fin immédiate des hostilités. La fin immédiate des hostilités, donc ça c'est également lié au processus politique et aux pressions qui doivent être faites sur les belligérants. Sur la RDC aujourd'hui, c'est absolument critique que nous passons des mots aux actions. Nous demandons le respect du droit international humanitaire qui est vraiment violé. Nous demandons l'ouverture de corridors humanitaires, la réouverture de l'aéroport, le passage des frontières pour les gens qui doivent bouger à cause du niveau de danger. Voilà un peu la situation. Donc c'est très dangereux, c'est très volatile. Il faut vraiment la fin des hostilités.
Guillaume Thibault avec Bruno Lemarquis, représentant spécial adjoint et coordonnateur humanitaire de l'ONU en RDC. Entretien à retrouver en intégralité dans une cinquantaine de minutes sur notre antenne vers 6h45 heure de Paris. Les trois pays de l'AES l'avaient annoncé il y a un an. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont donc quitté la communauté économique d'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO leur a donné un délai de 6 mois, certes, mais la date officielle de cette sortie, c'est aujourd'hui, le 29 janvier. Alors à quel changement faut-il s'attendre? Sur le plan économique notamment, c'est notre dossier Afrique Éco ce matin et cela pourrait bouger sur le champ des investissements, notamment Charlotte Cossé.
Privé de l'accès à la banque d'investissement de la CEDEAO et donc de 500 millions de dollars de financement, l'AES a annoncé vouloir créer sa propre structure ainsi qu'un fonds d'investissement. Modibo Mahou-Makalou, économiste malien.
Il y a eu une rencontre très importante à Bamako, des ministères de l'économie et des finances et 8 autres entités publiques à un très haut niveau pour mettre en place cette banque d'investissement et de développement aussi. Et je pense que la réflexion est assez poussée pour que cette banque puisse voir le jour assez rapidement.
Gros atout pour cet ancien conseiller à la présidence, le riche sous-sol de ces pays, Modibo Mahou-Makalou.
Nous parlons de l'uranium pour le Niger, le pétrole aussi, le Mali, l'or et le lithium, le Burkina Faso, l'or essentiellement. Évidemment, ça sont des ressources prisées en ce moment et je pense qu'il n'y aura aucun mal à mettre en place une banque d'investissement.
L'AES reste cependant dans l'Union monétaire des États d'Afrique de l'Ouest et donc de la zone franc.
À la clé, il est prévu à l'horizon 2027 d'avoir une monnaie commune. Ça veut dire que les trois pays, la Confédération de l'AES se retire de tout cela.
François Giovalucci, chercheur, ancien du Trésor français, est plus prudent.
Sur les questions monétaires, on n'a pas entendu parler d'avancée. Il était question de mettre en place une banque régionale qui se substituerait à la BIDC. Mais cette banque régionale, vu l'état des finances de ces pays, elle ne peut exister que pour autant que des non-régionaux, c'est-à-dire d'autres pays comme la Chine, veuillent bien apporter du capital. On peut aussi se poser la question avec beaucoup de doutes, puisqu'on a vu que la Chine tend à réduire sa voilure en matière de financement de l'Afrique depuis déjà 2 ans.
Les trois États ont mené des politiques proches de reprise en main du secteur minier, principale source de revenus pour les caisses publiques. Pour le commerce, il a fallu s'adapter, François Giovalucci.
Il y a des voies alternatives, notamment le fait de passer par le Togo, qui est désormais beaucoup plus proche des pays de l'AES qu'il ne l'a été. Il y a des détournements de trafic qu'on va pouvoir mesurer, mais le problème d'un détournement de trafic, c'est que quand on passe par des zones nouvelles, elles peuvent être soit insécures, soit manquer d'infrastructures, donc il y a des surcoûts. Donc ce qu'on a observé, c'est effectivement que le port de Lomé tendait à être privilégié par rapport au port du Bénin, puisque la frontière Bénin-Niger reste fermée, mais ça aura des désavantages et des surcoûts.
L'OCDE notait en décembre que le nouvel itinéraire Lomé-Niamey engendre une augmentation de plus de 100% des coûts logistiques par rapport au trajet d'avant-crise.
Charlotte Cossé, Afrique Éco, tous les jours sur RFI. (rire) 5h55 à Paris, avant de retrouver RFI Matin avec Andréane Mélard, l'humeur de Maman, et il nous parle ce matin du marché de l'emploi. Car selon vous, Maman, en très très démocratique république, certains métiers ne sont pas à conseiller à tout le monde.
Oui, d'entrée, je vais énoncer une opinion personnelle, mais très impopulaire. Malgré le chômage galactique au Gondwana, il y a des métiers très très dangereux à ne pas mettre entre toutes les mains. Bon, je ne compte pas le fait d'être gondwané lambda, qui est à lui tout seul une galère, aussi, sinon plus ardue que le châtiment de Sisyphe. Tu sais, ce pauvre gars condamné à pousser une pierre jusqu'au sommet d'une montagne, d'où elle finit par retomber pour qu'il recommence encore et encore. C'est ça le job d'être gondwané lambda, ta galère ne finit jamais. Il y en a des métiers dangereux au Gondwana. Comme électeur de l'opposition, secrétaire général de la présidence, ministre des affaires courantes, tu sais, ce ministre qui est tout le temps en train de courir et transpirer pour gérer les affaires courantes de l'entourage. Il y a aussi piéton dans les rues de Gondwana City, notre belle capitale, où tu peux te faire écraser par n'importe quel engin roulant, voiture, moto, tricycle, charrette et même char de combat. Sans oublier, membre de la société civile ou bien journaliste, c'est des métiers qui, à l'instar des histoires d'amour, finissent toujours très mal. Mais il y a un métier devant lequel nous nous prosternons. Terneront aujourd'hui un job plus périlleux que Gondwané Lambda himself, c'est DG comme directeur général, DG comme danger. Attention, je ne te parle pas des DG du secteur privé, hein, tu sais, c'est DG stressés, c'est DG à la merci des résultats comptables de leur entreprise, de l'offre et de la demande et du bon vouloir de leurs clients. Non, mon ami, je te parle des DG là, tu sais, nos DG à nous, ici au Gondwana, tu vois, non? Je te parle de nos DG, DG comme Dieu est grand, mais DG n'est pas petit. Au Gondwana, certains DG sont plus puissants et omnipotents que leur ministre de tutelle. Quand ils voient le ministre faire le malin à la télé, ils rigolent tout doucement. Parce qu'ils savent qui est qui et qui gagne combien. Dans la société à la tête de laquelle DG a été nommé par président fondateur en personne, mais DG est comme Superman, c'est le boss. Quand il arrive au bureau, tu ne peux pas ne pas être au courant. Hein. Tout le monde est au garde à vous. Les bavards se taisent, les éternels promeneurs dans les couloirs se rassoient à leur bureau pour faire semblant de travailler, les vigiles sont debout, les secrétaires arrêtent de grignoter des arachides sous leur bureau parce que hey, DG est là, hein, DG est là. Et tu le vois sortir de sa V8 ou de sa Range Rover de fonction pour monter dans son bureau par son ascenseur personnel, suivi par son escorte qui monte vite par les escaliers pour tout sécuriser. DG est puissant comme Superman. Mais de la même manière que Superman n'a peur que de la kryptonite, la seule arme qui peut détruire DG, ben c'est un audit. Dès qu'on parle d'audit, DG devient comme un petit garçon, il court se cacher sous le lit parce qu'il sait ce qu'il a fait. surtout quand c'est président fondateur qui a lancé l'audit. C'est là que DG devient DG comme dégage. À demain.
À demain, Maman. Merci à Didier Chirouz qui a réalisé cet Afrique Matin. Édouard Dupénoat était à la rédaction en chef. Mais surtout, merci à vous, bien sûr, pour votre fidélité à la Radio du Monde. Restez avec nous. Tout de suite, c'est RFI Matin et c'est avec Andréane Mélard. Bonjour Andréane.
Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous RFI Matin. Oui, ça commence tout de suite, 3 heures d'infos avec des invités, des chroniques, des reportages comme chaque jour, matinée largement consacrée aujourd'hui à la situation en République démocratique du Congo et Goma, capitale du Nord Kivu dans l'Est, où un calme précaire, très précaire, régnait hier soir. On fait le point toute la matinée dans nos journaux et avec nos invités pour le versant humanitaire de cette crise. À 6h45 et à 7h20, on parle aussi ce matin des pays de l'AES, de la Syrie, des États-Unis. Restez avec nous.
Témoin d'actu, le podcast d'info de RFI. Alexandra Cagnard.
En ce début d'année 2025, des incendies gigantesques ont ravagé des milliers d'hectares autour de Los Angeles. Comment couvrir une telle catastrophe? Dans Témoin d'actu, Loïc Piala partage son expérience et les défis journalistiques dans ce contexte de destruction et de reconstruction à venir.
Témoin d'actu avec Alexandre.